Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors ce matin, j'aimerais que nous lisions un texte. Il est très court, mais nous allons le commenter. Je crois qu'il va pour les uns, pour les autres. Le Seigneur connaît les cœurs. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 12, nous allons lire ce passage. Vous le connaissez, hein, je pense que ce n'est certainement pas un texte qui vous est étranger. Alors, Hébreux 12, 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est tortueux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et puis le reste, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie que nous avons lue. Vous avez remarqué avec moi, je traduis cette parole dans une version moderne. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante amère, selon la version moderne, qui pousse et fait du mal par son poison. Je vous propose une deuxième lecture qui rejoint la première, qui amplifie peut-être la pensée, l'idée. Deutéronome, chapitre 29, verset 17. C'est l'homme de Dieu qui s'adresse à Israël et qui amène les Hébreux à se remémorer les peines, les tribulations, la sortie d'Égypte. Et au verset 17, il dit ceci, « Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or, qui sont chez elles, en ce qui concerne le pays de Canaan. » Et il poursuit, « Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir des dieux, les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. » Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette situation biblique. Dans notre récit des Hébreux, il y a quatre verbes que je rappelle, qui invitent à l'action autour du thème de la sanctification. Fortifier, suivez, rechercher et veiller. Voilà notre part active. Dieu a une grande part dans la vie de son peuple pour le faire avancer. Mais nous avons aussi notre part résumée à travers ces quatre verbes qui sont des mots d'action, qui évoquent le maintien de la vie spirituelle et cette vie spirituelle qui implique qu'il faille secouer certaines torpeurs naturelles. Fortification, suivre, rechercher, veiller. Et les torpeurs naturelles, nous les avons dans les premiers mots de notre lecture, les mains languissantes et les genoux affaiblis. Les mains, ça sert à beaucoup de choses, et les genoux aussi. Hein. Quand on est ankylosé, ce qui n'est que temporaire, mais quand on est paralysé, c'est autre chose, hein. On le comprend. Et c'est pour cela que nous avons cette injonction à marcher droit, car là encore, la nature humaine a cette propension à dévier. Marcher dans le chemin, mais en raison de ce péché qui nous enveloppe si facilement, nous pouvons aussi dévier, peut-être pourrait-on dire dérailler. Il y a également la recherche constante comme une nécessité, je dis bien une nécessité de la paix avec tous. Il ne peut pas y avoir, enfin moi j'en suis convaincu, d'avancement là où la paix n'existe pas. D'ailleurs, il suffit de regarder autour de nous, partout où il y a des nations ou des peuples en guerre, c'est un retour, c'est un recul, sur le plan économique, sur le plan social, enfin tout ce que vous voulez, une misère. Et puis il y a également la sainteté, qui fait qu'il ne peut y avoir association entre le mal et le bien, les ténèbres et la lumière. Ça, nous le savons. Toutefois, ce qui fera l'objet de notre méditation, c'est le quatrième point qui est présenté de la façon suivante, que je lis, que je relis. En appuyant sur ces mots, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, que plusieurs n'en soient infectés. Alors, si nous reprenons les quatre verbes, eh bien nous allons les mettre dans ce texte. Et vous allez voir ce qui peut en ressortir. Fortifier, d'abord, implique qu'il nous faut animer ou réanimer, donner la force à ce qui en manque. Et ça, c'est notre cœur, c'est notre volonté, c'est notre vouloir. Et puis ensuite, la direction à prendre, suivre. Il y a des directions qu'on peut prendre, mais qui ne sont pas forcément les bonnes. En tous les cas, qui ne sont pas les meilleures. Et puis, il y a également rechercher qui exprime l'idée d'une aspiration profonde. Et puis, celle qui suit, c'est-à-dire veiller, qui évoque la vigilance et la prudence. Et la vie chrétienne est cadrée. Je dis qu'il y aurait bien d'autres choses à dire naturellement, mais si on s'en réfère à ce texte, eh bien nous avons ce qui est nécessaire. Ce n'est pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin, parce que nous avons la substance même d'une vie qui croit, d'une vie qui se développe, d'une vie qui avance. De la prudence, il en faut, car le sujet qui nous occupe présente des dangers, et ces dangers sont les plus sournois, car ils ressemblent finalement, et selon le texte, l'idée qui nous est donnée dans ce texte, à des mauvaises herbes du jardin. Messieurs, vous êtes descendus dans votre jardin, non pas pour y cueillir du romarin, mais peut-être pour aller faire la chasse aux mauvaises herbes. Hein ? Moi, j'ai pas de jardin, j'ai qu'une terrasse, alors je suis tranquille de ce côté-là. Et elle est bétonnée, alors, en principe, je devrais être tranquille pour quelque temps. Et on s'aperçoit que les mauvaises herbes du jardin, même coupées, même rasées, on s'aperçoit qu'elles poussent quand même, parce que le mal dont nous allons parler a ses racines invisibles au plus profond des hommes. Et cette racine dont la Bible nous parle, vous savez ce que c'est ? Il y a un mot qui est cité, c'est l'amertume. Je ne sais pas si on doit parler de ça au peuple de Dieu. De l'amertume, vous savez ce que c'est que l'amertume ? C'est un poison qui existe dans le monde, mais qui existe aussi, je dois le dire, également dans le peuple de Dieu. Et si la Bible nous en parle, c'est que ça doit être une réalité. Et ça, s'il y a une chose qui empêche de croître, c'est bien cela. L'amertume, qui a pour synonyme l'aigreur, le fiel, l'acidité, ce qui est âcre. On aime bien les douceurs, hein? Mais quelquefois, il y a certains aliments, c'est un peu plus difficile à ingurgiter. Et ce n'est pas sans raison que l'auteur rattache le sujet à ce qui précède comme étant la meilleure prévention contre cette maladie spirituelle. Parce que, assurément, c'est une maladie spirituelle. On ne peut pas dire autre chose. Certains diront, oh, c'est un défaut de caractère. D'autres diront, bah, c'est comme ça, et puis c'est tout, il est comme ça ou elle est comme ça. Non, je crois que nous avons à le considérer comme une maladie spirituelle. Et je pense que l'apôtre dit bien, quand il parle de l'amertume, il fait précéder justement ce mal de cette phrase « que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Parce que l'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est clair. La grâce de Dieu n'est faite que cet amour, de cette compassion, de cette bonté, de cette douceur de Dieu. Et si nous sommes porteurs de quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, que l'on appelle amer, qui est aigre, contre Dieu, contre nos frères et nos sœurs, contre notre mari ou notre femme, contre nos enfants, contre la société, contre tout ce que vous voudrez. L'antidote au virus est donné parce que c'est un mal qui est contagieux. Vous savez qu'on peut se passer la grippe. Et la gastro. Et vous vous en apercevez pas, hein. Parce qu'une fois que c'est déclaré, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à vous mettre au lit. Hein. Mais l'amertume, c'est quelque chose qui est insidieux. Je dirais même que c'est pernicieux. Et il nous est dit que c'est contagieux parce que le texte nous dit que poussant des rejetons, et que plusieurs, à ce moment-là, n'en soient infectés. Cette amertume, elle se transmet quelquefois par des regards, hein, par une indifférence, par des gestes, par des comportements, par des paroles surtout. L'amertume dans les cœurs, sous les apparences les plus bénignes, est capable de grands ravages, nous dit la Bible. Aussi, l'impératif nous est-il recommandé, veillez. Veillez à tout ce qui pourrait, finalement, eh bien là, nous atteindre dans ce sens. Parce que la menace est toujours personnelle et en plus, elle est souterraine. C'est ça l'amertume. Derrière des paroles douces, il peut y avoir de l'amer. Mais il ne faut pas oublier que, avant de regarder chez les autres, parfois, il faut aussi se considérer soi-même. Voilà une maladie que nous pouvons cultiver sans nous en rendre compte, par le simple fait de la tolérer, alors que l'Écriture sainte nous exhorte à combattre avec énergie et sans complaisance. Le texte nous le dit. Et d'autres passages de la Bible, nous allons voir, nous dire que nous n'avons pas à faire de quartier et de cadeaux avec cela. Quand on sait qu'il y a un virus quelque part, eh bien, on se prémunit. On va prendre peut-être là des fortifiants ou des médicaments, quelque chose qui va nous rendre plus forts. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Et quelquefois, lorsque nous sentons qu'il y a de l'amertume dans nos propres cœurs, dans notre propre cœur, ou peut-être chez d'autres que nous écoutons complaisamment, eh bien, je crois qu'il faut se méfier. Mais qui a cette perspicacité pour dire attention ? Parce que souvent, nous nous laissons envelopper. Parfois, nous la croyons vaincue, cette amertume. On se dit, ça y est, j'ai pris la victoire. Et la voici qui réapparaît à la faveur d'une négligence, d'un comportement, quelques paroles que nous n'aurions pas dû entendre. Et c'est reparti. Vous savez, on est tous des hommes, naturellement, et on sait combien nous avons des réactions, quelquefois, qui ne sont pas toujours des réactions spirituelles. Il faut le reconnaître. Finalement, l'amertume est révélatrice de péché. Beaucoup plus des péchés graves, des péchés cachés, tels que l'orgueil, tels que la jalousie, tels que l'envie, le refus de vérité et bien d'autres choses que je ne cite pas. Si vous me permettez cette image, l'amertume serait comme une violente fièvre qui, derrière laquelle se dissimule un mal profond. Vous savez, quelquefois, la fièvre, c'est symptomatique de quelque chose. On dit, il a ou elle a la fièvre, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a quelquefois, comme on appelle, un train de fièvre, qu'on n'arrive pas à enrayer. Mais parce qu'il y a un mal derrière. Alors, quelquefois, on va voir le médecin, on va voir des spécialistes, et on ne trouve pas. Et certains sujets fiévreux, je parle d'individus, peut-être même d'enfants de Dieu, qui sont là sous une fièvre latente, quelquefois peuvent révéler eh bien, quelque chose derrière. Ce peut être la frustration. C'est aussi un autre mal. L'insatisfaction, la déception, une douleur secrète. Ce peut être le désir d'être aimé de quelqu'un. Mais l'amertume, j'y reviens, décèle toujours un péché. Un péché, mais une chose certaine, c'est que nous pouvons être sûrs qu'elle engendre toujours le péché. Ce n'est pas forcément le péché qui est derrière, mais de toute façon, à partir du moment où on tombe dans le piège de l'amertume, on va ensuite, eh bien là, manifester par notre bouche nos comportements le péché, d'une façon ou d'une autre. Il n'est rien de plus insidieux que l'amertume, et l'ennemi trouve un malin plaisir à l'entretenir dans le cœur même des enfants de Dieu, s'il ne se fortifie pas d'abord. Et vous savez, le but de nos réunions, ce n'est pas de nous faire plaisir. Ce n'est pas de dire, eh bien, nous sommes là entre chrétiens et les uns et les autres, le dimanche matin on retrouve, on va chanter des cantiques, on va louer le Seigneur, on va prendre la Sainte-Seine, ce n'est pas ça le but. Enfin, moi, ce n'est pas comme ça que je le conçois. C'est pour que nous puissions, c'est vrai, parmi toutes ces choses, mais nous fortifier. Et puis, je crois que le diable vise et guette le chrétien qui ne se fortifie pas, qui ne suive pas des voies droites aussi. S'il y a de la tortuosité dans notre cœur, eh bien, je pense que là, c'est une brèche qui va permettre à l'ennemi, certainement, de nous amener à des choses qu'il entend bien nous faire ou nous faire dire. Ou des chrétiens qui ne raffermissent pas ce qui dévie. Et ça, nous avons la parole de Dieu pour nous le rappeler. Nous avons le Saint-Esprit qui parle à notre conscience et à notre esprit. Quelquefois, c'est peut-être une démarche d'un frère ou d'une sœur avec beaucoup de bienveillance et dans une démarche spirituelle qui nous dit « Mais tu sais, peut-être que ça ne va pas, mais il y aurait peut-être quelque chose à remettre en place. » Alors on l'accepte ou on ne l'accepte pas, naturellement. Et puis, ceux qui oublient de veiller, donc il est bien question de se fortifier, il est bien question de suivre des voies droites, il est bien question également de rechercher eh bien, là, la paix et la sanctification, parce que si on est toujours en conflit, ben, automatiquement on va mettre le conflit partout. J'ai remarqué que les gens qui sont en guerre, ils mettent la guerre partout. Les gens qui sont des hommes de paix amènent la paix. C'est logique. Son but à lui, à l'adversaire, est de produire du trouble, nous dit le texte. C'est-à-dire de la fièvre et d'infecter l'Église en aigrissant les esprits et les cœurs. Et quelquefois, il y a des églises qui apparemment étaient bien paisibles, qui se sont enflammées d'un seul coup. Parce qu'il y avait déjà quelque chose en préparation, il y avait un ferment qui était là. Alors attention, veillons, c'est tout. Et c'est notre rôle, c'est mon rôle en tant que pasteur, ou en tant que berger si vous aimez mieux, de veiller à tout cela, c'est normal. Si nous sommes partisans de faire l'unité de l'Église, de donner la paix à l'Église et l'équilibre à l'Église, ça c'est des choses indispensables. Elles sont tellement élémentaires, me semble-t-il. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions, brièvement, sur quelques histoires d'amertume que nous avons dans la Bible, et nous en tirons quelques profits, si vous me le permettez, afin de ne pas gâcher notre vie et celle des autres. Parce que je le répète, l'amertume c'est un poison. Je dirais même que c'est un venin au niveau du peuple de Dieu. Ça ne se lit pas sur le visage, obligatoirement, mais c'est vraiment au fond des cœurs. Et puis d'en guérir aussi, parce que, je le disais tout à l'heure, nous ne sommes que des hommes et nous restons faillibles les uns les autres avec nos points forts et nos points faibles. Mais est-ce que Dieu, c'est que s'il nous dit ça, c'est parce qu'il veut que nous évoluions, que nous nous développions, que nous puissions eh bien, peut-être rentrer dans de nouvelles étapes personnelles et puis aussi ensemble. Et si elle nous a touché cette amertume à un moment ou un autre de notre vie, eh bien, le Seigneur va nous aider à la déraciner totalement. Il y a un mot dans le vocabulaire français qui exprime cela, c'est nécroser, c'est faire mourir, amener la mort à cette racine. Et c'est ça la vie spirituelle, c'est d'amener progressivement avec l'Esprit de Dieu qui prend de plus en plus de place en nous, à nécroser finalement eh bien, cette racine venimeuse. Et en suivant le schéma de la chronologie biblique, nous allons voir tout simplement l'amertume dans ses causes, l'amertume dans ses effets, et comment en guérir. Je ne veux pas apporter un message qui resterait sur le négatif, les causes, les effets, sans vous parler de comment il faut en guérir. Ça, c'est le principal. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses, mais si on n'apporte pas la solution, ça ne sert à rien. Commençons par le premier texte. C'est bien le dépit. Parce que on peut dire aussi que l'amertume, c'est un dépit. C'est bien le dépit qui a conduit Caïn à devenir le premier criminel de toute la terre. Et vous vous souvenez que c'est une histoire d'offrande, hein, une histoire religieuse, une histoire spirituelle, nous pourrions dire. Tous les deux offrent une offrande à Dieu. Et après son geste, il est devenu, nous savons, vagabond et errant sur la terre. Et il portait en lui, mais alors, parce que si vous lisez Genèse 4, je ne vais pas vous faire le détail, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce matin, mais quand vous voyez ce qu'il exprime devant Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Et puis je serai errant, et si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Enfin... Bon, tout cela dénote à travers des paroles une acidité. Parce que c'est vrai qu'il s'est retrouvé voyageur et vagabond, mais l'amertume nous met en marge, frères et sœurs. Et ça, c'est une des premières choses que nous devrions comprendre. Si nous ne combattons pas ce mal à l'intérieur, cette acidité à l'intérieur, tôt ou tard, nous serons mis en marge des autres, et même dans une église. Et plus l'église ira vers une dimension spirituelle, plus ceux qui sont amers, eh bien, se retrouveront, non pas qu'on le veuille, mais ils se retrouveront toujours en marge, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre après, à un moment donné. Et plus nous prenons de retard, parce que nous ne voulons pas, eh bien, faire ce que Dieu nous demande de faire à l'intérieur de nos cœurs, eh bien, nous allons perdre finalement, eh bien, le rythme. Et l'amertume, c'est quelque chose qui nous met sur les côtés. Et combien de fois je l'ai vu dans mon ministère, où des frères et des sœurs dans les églises, je ne parle pas de Saint-Nazaire, mais je l'ai vu, des frères et des sœurs voulant conserver, gardant une amertume dans leur cœur, un jour se sont retrouvés complètement, ben ils se sont retrouvés dehors. Hein. Nécessairement. Parce que ce n'était pas possible. Et ce n'est pas ni le pasteur, ni l'église. Mais c'était eux qui ne voulaient pas régler le problème. C'est l'histoire de cette errance de cas. Conséquence finalement et bien de ce qu'il avait gardé dans son cœur. Ensuite, c'est encore une histoire de famille où l'amertume fait ses ravages. C'est quand Ésaü choisit ses femmes parmi les Héthiennes au désespoir de ses parents. Je cite le texte parce que c'est important de citer des textes. Il nous est dit qu'elles, en parlant des belles-filles, donc les femmes d'Ésaü, furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Vous connaissez, on a lu dernièrement le texte. Un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Situation combien délicate lorsque les rapportés ne trouvent pas leur place, ni même ne sont acceptés. Les mauvais choix et les choix qui ne plaisent pas. Ça, on peut en parler dans les familles. Vous savez, nos enfants, ils vont choisir celui ou celle, s'ils sont chrétiens avec la grâce de Dieu, mais ça peut nous plaire ou ça ne peut pas nous plaire, nous les parents. Alors, que de conflits familiaux autour de cette situation, parce que ça peut générer bien des problèmes, et c'est ce qui s'était passé dans le couple de Rebecca et Isaac, et ça avait suscité un sujet d'amertume. La tromperie est un autre facteur d'amertume, laquelle réclame souvent la vengeance ou entraîne la vengeance. Et ça, c'est toute la mesure du cœur de l'homme qui se manifeste à ce moment-là. C'est quand Ésaü, je reviens toujours à lui parce que je crois qu'il avait quand même pas mal de choses à son compte. C'est quand Ésaü revient vers Isaac avec le gibier que son père lui a demandé d'aller chasser, pour ensuite recevoir la bénédiction paternelle, et cette bénédiction lui est refusée au dernier moment, parce que Jacob, son frère, l'a supplanté par une supercherie de première classe. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on en a parlé de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que Ésaü est tombé dans une amertume terrible. Et je lis le texte. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, lui refusant la bénédiction, parce que quelqu'un était venu chercher avant, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac répondit, « Ton frère est venu avec ruse, et il en voulait enlever la bénédiction. » La tromperie, le mensonge, toutes ces tortuosités, ça génère de l'amertume. Et je crois que, quand il est question de marcher dans des voies droites et raffermisser ce qui dévie, je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir une certaine rectitude dans nos rapports les uns avec les autres, et pas se tromper les uns avec les autres. Malheureusement, peut-être ça s'est fait, mais ça ne doit plus se faire dans l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas à l'honneur de Dieu. C'est entre deux frères, là. Ils s'étaient trompés superbement. Mais ça, c'est des choses qui sont honteuses. Et on comprend que, quelquefois, il y a eu un poison dans le peuple de Dieu. Il y a un poison, parfois, dans les familles. C'est parce que certains ne sont pas restés à leur place. Et ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ils ne sont pas restés dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la probité. Vous savez, l'Église, elle doit être propre. Si on a quelque chose à dire, il faut le dire. Mais il ne faut pas le dire derrière le dos, frères et sœurs, je vous en supplie. Vous allez commettre un péché et vous allez être doublement responsable parce que vous allez faire commettre des péchés à d'autres. Parce qu'automatiquement, il va y avoir des réactions et pas forcément des meilleures. Et là, dans cette affaire qui nous est rapportée, on s'aperçoit que les relations malhonnêtes engendrent l'amertume. Jacob paiera le prix fort pour apaiser le ressentiment d'Ésaü, son frère. ça lui coûtera 21 années d'exil. Ça lui a coûté très cher. Autre point où il est question d'amertume dans la Bible, c'est quand un homme ou une femme, un chrétien ou une chrétienne, se détourne de Dieu en suivant le mauvais exemple que l'on laisse aux autres pour aller après de vaines croyances, de fausses religions, des sectes, qui est une source d'aigreur et de division parmi les croyants. Et ça s'est vu et se verra, hélas, encore, et c'est malheureux. Dans Deutéronome, nous avons pris ce texte tout à l'heure, au chapitre 29, Dieu dit à Israël, « Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel pour aller servir des dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait pas parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. » Qu'il est malheureux, quelquefois, de constater que certains ne résistent pas à l'appel des sirènes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et écoute des choses qui sont en dehors du contexte où Dieu nous a parlé et qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous l'avons vu, hélas, que ce soit dans les familles que nous constituons ou que ce soit dans la famille du peuple de Dieu de l'Église, que de division, que d'aigreur, qu'ils ne produisent du poison et de l'amertume. Que de blessures inguérissables ont été infligées à l'Église de cette façon. Je l'ai dit, je le répète, nous avons été confrontés à traiter des problèmes graves dans certaines églises, des problèmes de division. C'est un cancer. Et de voir que ceux qui, quelquefois, eh bien, sont allés faire un petit tour ailleurs, parce que l'herbe était plus verte, non seulement ils n'ont pas trouvé de l'herbe plus verte, mais ils sont revenus complètement démantibulés, complètement out, si je peux me permettre. Et quand ils sont revenus avec une terrible aigreur, bien qu'ils aient été prévenus, pour la plupart, une amertume dans leur cœur. Et c'est ce que Dieu voulait prévenir Israël, de dire, mais attendez, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez voir un peu ce qui se passe là, chez les peuples de Canaan. Mais quand vous allez revenir, attention, hein, parce qu'on ne ramène jamais quelque chose de bon quand on va dans des endroits qui sont mauvais. C'est normal, c'est logique, on devrait y penser avant. Vous savez, s'il y a des endroits, et là je parle, je généralise, mais si on va dans certains endroits qui ne sont pas forcément à l'honneur de Dieu, on peut se donner toutes les raisons pour y aller, hein. Ça c'est notre problème. Mais nous pouvons en revenir avec quelque chose qui risque de d'abord nous empoisonner nous-mêmes, parce que si nous jetons cette amertume sur les autres, c'est parce que nous sommes nous-mêmes empoisonnés. Et que de drames et que de pleurs autour de ça. L'affliction de nos vies, de nos existences peut rendre parfois amère. C'est l'histoire de Naomi. Je reprends le texte. Quand elle est revenue à Bethléem, elle dira à toutes celles qui vont l'accueillir, « Ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. » Et la traduction du mot Mara, c'est le mot amertume. « Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Pauvre Naomi. Là aussi, remarquez, elle a suivi son mari, c'est pas elle qui avait choisi. Mais quand on connaît l'histoire, là aussi, elle n'aurait pas dû aller où elle a été. Quand on quitte Bethléem, qui est la maison du pain, parce qu'en traduction c'est ça, Bethléem veut dire maison du pain. Même par temps de famine, surtout quand Dieu nous dit que je te nourrirai là, comme Élie à Kérite, et qu'il nous fait la promesse qu'on ne manquera de rien, qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il ne nous délaissera pas, mais que nous y allons quand même, pour aller en Moab, qui s'appelle, et qui en traduction Moab, ça veut dire maison de la souffrance, dans l'espoir d'y trouver réconfort et refuge, eh bien on revient souvent aigri et appauvri. Et Naomi, quand elle est revenue, pourtant elle est revenue dans une période où c'était formidable, c'était au moment de la moisson des orges. La famine avait disparu, mais son cœur était dévasté par l'amertume. Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Parce qu'elle revenait, elle était complètement déconfite. Elle était malade de ce qu'elle avait vécu. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu ses fils. Elle avait perdu une de ses belles-filles. Et quand je dis perdu, en tous les cas, pour certains, ils étaient bien morts. Hein. Elle était revenue les mains vides. C'est terrible. La frustration peut aigrir et rendre très malheureux. Et je m'explique. Lorsque nous souffrons d'espoir, oui, et d'espérer ce qu'on ne voit pas arriver et qui ne se réalise pas. C'est l'histoire d'Anne dans 1 Samuel, chapitre 1er. Écoutez bien cette parole. On voit une femme extrêmement malheureuse. Il nous est dit ceci dans ce texte. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Anne. Elle voulait un bébé. Hein. C'est une femme qui attendait depuis des années un bébé. Et ça, c'est très fort. On ne peut pas s'imaginer hein, ce que ça peut être. Alors, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle versa des pleurs. Et elle s'adresse à Élie, le sacrificateur, et elle lui dit « Je suis une femme qui souffre en son cœur et je répandais mon âme devant l'Éternel, car c'est par l'excès de ma douleur et de mon chagrin que j'ai parlé. » Là aussi, elle était dévorée par cette chose terrible qui s'appelle l'amertume. L'attente interminable pour la satisfaction de nos désirs les plus légitimes. Et pourtant, c'était légitime d'avoir un enfant pour cette femme. Elle était ravagée par le temps qui passait. Elle était malheureuse. Elle était au point d'un chagrin immense. Alors que tout le monde faisait la fête à Silo, elle s'était mise à l'écart. Elle était rentrée dans le sanctuaire de l'Éternel pour pleurer et parler de son amertume. « Mais Seigneur, eh bien, moi je crois qu'elle avait raison. » Parce qu'au lieu de parler de notre amertume aux autres, eh bien, il faut en parler à Seigneur. Et vous savez qu'elle est exaucée en tous les cas. Samuel, qui veut dire exactement l'Éternel a donné, après des années, après des mois d'attente, de souffrance. Elle nous donne un exemple formidable en tous les cas, Anne. C'est que nos amertumes, n'en parlons pas aux hommes. Même un Élie, pourtant il était sacrificateur, mais il ne comprenait pas. Il croyait qu'elle était ivre. Parlons-en au Seigneur, frères et sœurs, de nos amertumes. Et lui trouvera les solutions, il nous guérira. Ce peut être un enfant que nous attendons. Ce peut être un mariage pour des jeunes gens et des jeunes filles. Ce peut être un travail pour ceux qui sont là depuis un certain temps, et bien là, dans le chômage. Ce peut être une promesse divine que nous espérons et que nous ne voyons pas arriver. Nous scrutons l'horizon et nous ne voyons rien. Et qui, à un moment ou à un autre, peut dégénérer par une amertume. En disant, mais pourquoi ça m'arrive à moi et je vois les autres obtiennent et moi je n'obtiens pas. C'est là le piège. Et là, nous pouvons tomber dans une aigreur, nous pouvons tomber dans une acidité. Et on le voit, cela. Et ce n'est pas seulement à l'extérieur, c'est aussi parfois au milieu de nous. Il y a des gens qui ont fini leur vie, mais ils sont finis, mais véritablement acides. Des personnes, quelquefois, d'un certain âge, qui pouvaient avoir bien un autre comportement auparavant, mais à travers certaines choses qui leur sont arrivées. Mais au lieu de surmonter l'handicap, ça les a rendus acides, jaloux, critiques, avec un regard noir parfois sur les autres qui ont et que eux n'ont pas. Que rien ne vienne à nous dominer par une frustration, au point de nous révolter ou de nous faire abandonner en disant « bien si c'est ça le Seigneur, c'est pas la peine ». Et de finir dans la merde. Vous voyez que c'est un problème grave. L'amertume rend méchant et injuste. Un autre texte, c'est dans Samuel chapitre 30. Il s'agit de David. David qui était un homme de Dieu, qui est victime de l'amertume des autres. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Je vais vous expliquer le texte. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est l'épisode de Tsiklag. Vous connaissez la ville de Tsiklag? Vous relirez ça dans votre Bible, hein? C'est dans 1 Samuel chapitre 30. Et dans les temps de défaite, et dans les temps d'insuccès dans lesquels se trouvait David, quand tout va de travers, frères et sœurs, comme dans cette situation de Tsiklag, où les Amalécites ont fait prisonnier les femmes et les enfants des Hébreux, les compagnons de David, tout a été brûlé, la ville a été brûlée, tout a été pillé. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé une ville, il n'y avait plus rien. Vous rendez compte, ces guerriers qui avaient été menés la guerre ailleurs, quand ils sont revenus chez eux, plus de ville, plus de biens, leurs femmes avaient disparu et leurs enfants. Ils sont tombés devant cette situation dans une amertume et dans une aigreur, où ils se sont pris à David, qui était leur chef, comme c'est arrivé très souvent à Moïse et à Aaron. Hein. Vous connaissez l'histoire. Il fallait du tempérament et il fallait de la patience. Ils se sont retrouvés dans le désespoir le plus complet. Et là, ils ont nourri, les Hébreux à ce moment-là, les compagnons de David, ont nourri eh bien, une amertume contre David. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, il nous a amenés ailleurs et nous, on aurait dû rester ici, parce qu'on aurait sauvé nos femmes et nos enfants. Mais David était un homme de Dieu. Devant l'amertume de tout le peuple qui était autour de lui, enfin de ses hommes, il nous est dit qu'il s'est appuyé de tout son cœur sur l'Éternel. Et Dieu l'a délivré. Il nous est même dit dans ce texte, devant le dépit d'avoir perdu leurs femmes et leurs biens, ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. Et quelquefois, on peut être confronté à des faillites, à des situations, des revers de fortune, où nous pleurons jusqu'à ne plus avoir la possibilité de pleurer. Mais que jamais ça se change en amertume. Quand la source de nos lames tarit, n'allons pas rester sur un fond d'amertume, parce que c'est très dangereux. Il faut veiller à ce que l'aigreur ne vienne pas nous faire commettre plus de mal qu'il y en a déjà. Et surtout nous en prendre à ceux qui n'y sont pour rien. Parce que David n'y était pour rien dans cette affaire. C'était comme ça. Mais Dieu les a délivrés après. Quand vous lisez le texte, c'est formidable. Parce que David était un homme de foi. Il a su convertir le mal en bien. Il a su rebondir d'une manière magnifique pour changer finalement cette situation où il y avait tant d'aigreur et d'amertume autour de lui, un véritable triomphe à la gloire de Dieu. Disons-le encore une fois, frères et sœurs, ne faisons pas payer à cause de nos amertumes passagères, ne donnons pas la facture aux autres. Notre amertume doit être réglée entre nous et le Seigneur, et nous ne devons pas que ce soit les autres qui en souffrent. Ça, c'est une règle que nous devons avoir. On est tous, quelquefois, on n'est pas toujours bien. Hein. Moi, ça m'arrive quelquefois de ne pas être bien. Mais je dois m'obliger à dire, eh bien voilà, ce que je pense, ce que j'ai envie de dire, eh bien je ne vais pas le dire, parce que si je le dis, ça ne va finalement rien avancer à mon problème, mais je vais faire du mal aux autres. Mais par contre, à ce moment-là, il faut que nous nous empoignions devant Dieu en disant, voilà, tu vois Seigneur, hein, moi je crois que ce n'est pas très bien ce que je pense, pas très bien ce que je ressens. Je peux arroser tout le monde si je veux. Eh bien Seigneur, donne-moi la grâce et donne-moi l'intelligence de le garder pour moi, parce que ça ne servira à rien, c'est pas du positif. Et quelquefois, nous voyons que certains ne peuvent pas se contenir, ils ne peuvent pas... Il faut que tout le monde en prenne... Ben, c'est pas normal. Nous avons besoin de faire des progrès, je parlais de croissance, mais même dans ce domaine, les uns et les autres. Et puis, un autre exemple, il y a des limites à ne pas franchir. Quand on veut aller trop loin, ou en faire trop, on finit par agacer, voire même exaspérer, et cela dégénère en une profonde aigreur. Je cite le cas de ces deux hommes qui étaient généraux, l'un et l'autre, tous les deux généraux du roi David. C'est dans 2 Samuel, chapitre 2, 26, où il est question d'Abner appela Joab. Abner était un général, Joab était un autre général. Abner appela Joab et dit, « L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusque à quand tiendras-tu à dire au peuple, tarderas-tu à dire au peuple de ne pas poursuivre ses frères ?» C'était une guerre intestine dans la nation d'Israël. Abner voulait arrêter la guerre et Joab voulait la continuer. Mais il y a des temps où il faut savoir faire la paix. Et il y a des temps où Dieu nous dit « Arrêtez de faire la guerre, ça suffit ». Parce que si nous dépassons les limites, alors à ce moment-là, c'est le peuple entier d'Israël qui va verser dans l'amertume. Et ça fait quoi? Une guerre civile. Ça dégénère. Pour quelque raison que ce soit, quand on contraint les autres, ou on les pousse malgré eux, on finit par l'irritation, on finit par les irriter, et on tourne et on vire dans un conflit perpétuel. Ce sont des erreurs qu'il faut éviter, frères et sœurs. Je crois que chacun doit être responsable, doit être suffisamment mûr pour savoir ce qu'il a à faire devant Dieu. Moi, je veux replacer l'Église dans sa responsabilité vis-à-vis du Seigneur, de chacun personnellement. Moi, je suis responsable devant le Seigneur. Chacun d'entre vous est responsable devant le Seigneur. Parce qu'autrement, eh bien, l'Église ne grandira jamais. Quand il est parlé dans l'Église, dans la Bible, que de maturité spirituelle, il faut que chacun dans notre entendement, nous sachions ce que nous avons à faire. Et nous voyons que dans ce texte, eh bien, là, eh bien, Joab voulait forcer le peuple d'Israël à continuer la guerre, alors que Abner disait, mais non, on arrête maintenant, ça suffit. Il y a déjà eu assez de sang versé, il y a déjà eu assez de troubles, il y a déjà eu assez de dégâts et de désastres, on arrête. Mais Abner, vous connaissez, un jour je vous prêcherai, si vous permettez, si le Seigneur m'y conduit, sur la vie d'Abner, de Joab. Vous verrez un peu le personnage que c'était Joab. Ah, c'était quelqu'un, hein. Je peux vous dire que même le roi David tremblait devant lui. Pourtant, David, c'était pas n'importe qui. Il avait un drôle de tempérament. De l'homme charnel, en tous les cas. Alors, je crois qu'il faut, savoir donner la mesure à toute chose. Dans le livre des Proverbes ou dans le livre d'Ecclésias, il nous dit « Ne sois pas juste à l'excès de peur que tu ne te détruises. » Et ça, c'est aussi un autre danger qu'il faut éviter. Parce qu'à un moment ou à un autre, on veut tellement pousser les choses très loin, c'est qu'on finit dans l'aigreur. C'est ce qui se passe dans notre texte. C'est aussi la fameuse histoire d'Élie, le prophète, qui est ayant déployé tout son zèle pour son Dieu, et il l'a déployé sans compter, arrive à un tel point de découragement qu'il finit aigri par si peu de résultats. Et il le dit, et qu'à un moment donné, il demande la mort. Il dit, mais Seigneur, je veux mourir. Quelquefois, ça pourrait être une solution de mourir. On n'entend plus rien, plus personne autour de soi. Ouais. Ça pourrait être une solution, mais ce n'est pas la solution. Alors, il demande de mourir. Il dit, c'est assez, Seigneur, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il venait de s'en apercevoir qu'à ce moment-là. Si notre foi, notre travail, nos espérances ne sont pas solidement dirigées vers Dieu, mais plutôt vers des résultats visibles et attendus, et c'est ça le problème, nous risquons, comme Élie, d'être déçus et de finir dans l'amertume, ou l'amertume dans l'âme, avec le sentiment de n'avoir rien réalisé de notre vie. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous faisons pour la gloire de Dieu. Et nous ne le faisons pas pour des résultats, pour être vus, pour dire, eh bien voilà, c'est formidable ce pasteur, il est bien, hein. Ben, faut pas compter sur moi pour ça. Moi, je fais mon travail, je le fais devant le Seigneur, mais je ne veux pas qu'on vienne dire ceci et cela. Ça sert à rien. Je le dis ouvertement. Remarquez, les angevins l'ont entendu pas mal de temps. Peut-être pour ça qu'ils m'ont dit, ben maintenant il est temps que tu t'en ailles, là. Eh oui, mais on n'a pas besoin de s'encenser, et puis on n'a pas besoin d'être encensé. Moi, je crois que si on travaille pour l'œuvre de Dieu, c'est vrai pour un pasteur, mais c'est vrai pour tout le monde, si on travaille seulement pour des résultats visibles et attendus, nous perdons notre temps. Et ça, il faut qu'on comprenne bien. Ça, c'est important. Si c'est pour avoir une réputation, si c'est pour avoir une carte de visite en mettant tous nos états de service, ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est tout simplement la manière des pharisiens que Jésus dénonçait hier. Et Élie avait fait des choses extraordinaires. Il avait fait des choses, mais il s'attendait peut-être à autre chose. Et il a fini dans le découragement. Et son découragement l'a amené à l'amertume. Méfions-nous du découragement. Parce que ça peut devenir très mauvais. Ça peut tourner, comme on dit, vinaigre. Alors il dira devant Dieu, « Mais tu sais, Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle et je suis resté moi seul. » Tiens, tiens. Seigneur, écoute, il dit, « Non, non, tu vois pas très clair, Élie. Hein, parce que tu penses que tu es tout seul, mais moi je peux t'en montrer 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux en balle. Alors ne te décourage pas et ne t'aigris pas. » Vous voyez, si on cherche des résultats, eh bien, on risque de finir dans l'amertume. Cherche pas à avoir un ministère mondial, hein. Je vous le dis tout de suite. Saint-Nazaire, c'est pas mal. Est-ce que ce que je ne comprends pas, ce qui demeure caché à ma compréhension, crée en moi de l'amertume contre Dieu? C'est le psaume 73 qui nous dit cela. Le psalmiste dit ceci, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux et mon cœur s'aigrissait. » Et quelquefois, en tant que chrétien, il y a des choses que nous ne comprenons pas dans la vie, que nous ne comprenons pas autour de nous, que nous ne comprenons pas même chez nous, avant d'essayer de comprendre les autres. Et le psalmiste, devant le monde, devant le mal qui existait dans son temps, il se disait, mais Seigneur, mais si tu es Dieu, tu devrais faire quelque chose. C'est l'histoire d'Habacuc, le prophète. Jusque à quand, Seigneur, permettras-tu? Et l'injustice et toutes ces choses. Alors, ce que je ne comprends pas, que ça ne devienne pas mon incompréhension, et là où je bute sur des problèmes insolubles, que ça ne devienne pas une source d'amertume pour moi. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas la peine qu'on essaie d'inventer quelque chose pour avoir gardé bonne figure. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et ça ne doit pas me détruire. Ça ne doit pas me miner, ça ne doit pas me ronger, ça ne doit pas faire l'effet d'un cancer à l'intérieur de moi-même. Et ça, c'était le problème du psalmiste. Il nous a dit, mais mon pied allait chanceler, j'allais fléchir, j'allais tomber parce que je voulais comprendre. Ben, mes frères et mes sœurs qui voulaient tout comprendre, acceptez ce matin que vous ne comprendrez pas tout. Et si vous butez sur des problèmes, n'allez pas vous aigrir contre Dieu ou contre le pasteur parce qu'il ne sait pas vous l'expliquer. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas tout. Je me garantis. Parce que vouloir tout comprendre peut être un mal, et un grand mal. Puis je vais bientôt terminer. Amertume toujours quand par défaut ou non d'éducation, l'enfant est incorrigible. Ça, c'est pour les parents. Dans Proverbes chapitre 17, il est dit ceci, « Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. » Quelle misère dans notre monde et quelle souffrance. La grossièreté, l'indélicatesse, les injures, le mépris, que de parents ont souffert, souffrent et souffriront encore. Lorsqu'il y a ce genre de phénomène dans notre descendance, l'amertume de celle qui l'a porté. Les aventures les plus séduisantes, celles qui ont le plus de piquant, se soldent souvent par un arrière-goût amer de remords. Je cite Ecclésiaste chapitre 7. « J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. » Alors il y a des endroits où il faut mieux éviter, hein. Comprenez, je ne veux pas trop faire de commentaires. Il y a des expériences qui laissent des traces et qui font souffrir. Il y a une jeune femme qui rendait témoignage au groupe de jeunesse hier soir, qui nous parlait de sa vie avant sa conversion, et elle nous disait, c'est vrai que même convertie après, il y a des aventures auxquelles on se livre, et qui même avec le pardon de Dieu, eh bien là, restent nécessairement eh bien, au fond de notre chair. Et il n'y a rien à faire d'autre. Bon, le Seigneur pardonne. Le Seigneur enlève même aussi la douleur, le souvenir de la douleur, mais il y a des choses qui restent quand même. C'est comme ça, c'est tout. Hein, il est bien dit, là, hein, j'ai trouvé plus amer que la mort, certaines expériences. Également, l'abandon de Dieu entraîné par la méchanceté et nos infidélités, quand survient les conséquences de ce que nous avons semé, nous fait goûter combien il est difficile de vivre sans Dieu. Dans Jérémie chapitre 2, c'est Dieu qui dit cela à Israël, « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras, dit Dieu à Israël, et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu. » Lorsque nous serons dans l'épreuve, ayant tourné le dos à Dieu, qui appellerons-nous à notre secours, puisque nous lui avons tourné le dos? Il y a dans le livre des Proverbes, chapitre 1, chapitre 2, ce genre de proposition. Puis dans le livre du prophète Ésaïe également. Après avoir été bénis et avoir reçu la grâce de Dieu, si nous nous sommes détournés de lui, eh bien nous risquons de vivre des moments d'amertume cruels. Il n'y a qu'une chose qui peut réparer ça, c'est la repentance de nos fautes. Je finis. Contester avec la volonté de Dieu ne peut produire que de l'aigreur et le désir de fuite. Fuir loin de Dieu, mais lequel Dieu nous rattrape toujours. C'est l'histoire de Jonas. Il fallait bien que je termine par celle-ci, hein. J'ai toute une étude sur le Nouveau Testament, sur l'amertume. On verra ça plus tard. Jonas était un homme qui a été envoyé pour prêcher la repentance à Ninive. On connaît l'histoire. Alors il a pris un bateau, et puis il est parti là, dans la direction contraire. Mais il y a eu un naufrage. Et puis il y a un poisson qui l'a englouti. Mais néanmoins, là où il ne voulait pas aller, Dieu l'y a conduit quand même. Il s'est retrouvé quand même à Ninive. Et à ce moment-là, il prêche la parole de Dieu. Et voilà que les Ninivites se repentent. Une ville entière qui se repent à la prédication de Jonas. Ils ne s'y attendaient pas. Hein. Est-ce que quand nous prêchons et quand vous rendez témoignage, vous espérez quand même qu'il va se passer quelque chose, j'espère. Vous êtes quand même pas tous comme... Hein, comme nous ne sommes pas tous comme Jonas, hein, j'espère, en tous les cas. Et à ce moment-là, puisque les gens se convertissent, Jonas, le prophète de Dieu, se met en colère contre Dieu et il lui dit... Ah ben c'est un petit peu l'histoire d'Élie. Hein. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Il en avait un coup sur la tête. Hein. Et Dieu lui répond, « Fais-tu bien de t'irriter ? Est-ce que tu as raison d'être amer comme ça ? Te rends compte ? Je t'ai donné une mission qui réussit, et toi, tu fais la comédie. » Alors, ça lui chauffait sur la tête. Hein. Parce qu'à un moment donné, il avait tellement chaud, il n'avait pas de chapeau. Enfin, bon, c'est moi qui dis ça, parce que ce n'est pas dans le texte. Dieu lui fait pousser un ricin. Alors, il se met sous le ricin parce que ça fait un peu de l'ombre. Hein. Et puis à un moment donné, Dieu lui fait un petit clin d'œil. Il fait une... Enfin, j'allais dire une blague. Non, le Seigneur ne fait pas de blague. Mais le ricin, il va mourir dans la nuit. Et après, il s'irrite parce que le ricin est mort. Qu'est-ce qu'il veut, Jonas ? Et quelquefois, est-ce que nous ne ressemblons pas à Jonas ? Hein, on se plaint, on a des caprices, on dit ben, je ferai le contraire de ce que tu m'as demandé, et puis finalement Dieu nous bénit quand même, et puis on ne s'en aperçoit pas, et quand il y a quelque chose qui ne va plus dans notre vie, malgré la bénédiction, on est encore mécontent. On s'irrite, on est rempli d'amertume. Parce que les résultats et le succès donnés par Dieu ne nous conviennent pas. Parce que nous avions pensé autrement et c'est le contraire qui se produit. Et vous savez que c'est terrible de ne pas savoir se réjouir quand Dieu bénit les autres que nous. On a quelquefois des mous caractéristiques sur le visage des enfants, mais quelquefois il y a aussi des mous significatifs sur le visage des adultes. Ah, oh, il s'est acheté une voiture, une belle voiture. Puis moi qui roule avec une 4L de 1900... Et ça me fait un pincement au cœur, vous ne pouvez pas savoir. Ouais. C'est toujours les mêmes qui sont bénis dans l'église, jamais moi. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas hein, là-haut. Hein. Et ça s'appelle de l'amertume. Alors quelquefois on ne le dit pas, mais ça se voit sur le visage. Tout le monde se réjouit en disant, mais c'est formidable. Il y a quelque chose de nouveau dans la vie de ce frère et de cette sœur. C'est merveilleux, on se réjouit. Puis vous en avez un ou deux qui commencent à devenir verts. Ça, c'est du Jonas tout craché. L'amertume. L'aigreur. À propos, vous n'avez pas de problème d'estomac. Bon, je termine. Il n'existe qu'un seul antidote capable d'enrayer et de vaincre ces parasites de l'âme que sont l'amertume, l'aigreur, l'irritation, l'acidité de caractère, des paroles et autres réactions négatives. C'est Corinthiens chapitre 1, Corinthiens chapitre 13. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'aigrit pas. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a quelqu'un de mieux que l'un que l'autre, parce que nous ne sommes que des hommes. Et Seigneur, si tu nous as choisis, c'est que nous n'étions pas différents des autres. Et que derrière, Père éternel, eh bien ce que nous sommes, toi, tu nous connais parfaitement. Seigneur, dans le nom de Jésus... Les uns et les autres, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos propres péchés. Ouais, et le péché, Seigneur, parfois d'acidité et d'amertume, qui se transmet, Seigneur, par nos paroles, ou parfois par des comportements, ou par des retraits de l'Église, ou par le mutisme, ou par des colères, par toutes sortes de choses. Nous savons, Père éternel, que derrière tout cela, eh bien, si ce ne sont que les apparences, il y a un mal qui se tapit au fond des cœurs, au fond du cœur de l'homme. C'est cette amertume, Seigneur, tellement dévastatrice. Nous te remercions et nous te bénissons parce que si tu avais voulu écrire la Bible d'une autre manière, tu n'aurais parlé que des qualités. Tu n'aurais parlé que des beautés. Tu n'aurais parlé que des choses qui sont en effet belles, magnifiques, lumineuses, toutes ces choses. Mais tu nous as parlé aussi des choses qui faisaient aussi la caractéristique de notre humanité, entre autres ce que nous avons dit ce matin. Alors, Seigneur, tu veux que nous comprenions bien que pour que l'Église avance, si déjà tu as donné en effet de grands coups de pouce, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, sur le plan matériel, sur le plan financier, dans nos vies personnelles, eh bien, Seigneur, tu veux aller plus loin encore maintenant. Tu veux que, Seigneur, il n'y ait pas de ces sentiments mauvais. Et tu nous appelles, Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, à suivre des voies droites, à rechercher la paix entre tous, à veiller, Seigneur, et ainsi, Père éternel, véritablement, à pouvoir nous approcher de toi tous ensemble, en nous aimant les uns les autres, mais avec un cœur purifié de toute racine, Seigneur, de poison, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Bénis ton peuple. Nous avons entendu ta parole. Et cette parole, Père éternel, nous voulons la faire nôtre, chacun d'entre nous. Et nous te remercions et nous te bénissons. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous, Seigneur, d'être abondants dans les fruits du Saint-Esprit, tels que la bonté, tels que la patience, tels que la fidélité, tels que la douceur, alors il n'y aura pas la place pour le reste. Merci, Seigneur. Amen. Amen.